Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, j'avais commencé une série de prédications sur ce qui caractérise les églises évangéliques. Et un sociologue anglais qui s'appelle Babington, nom typiquement britannique, avait remarqué que quatre points sont vraiment on pourrait dire, l'apanage des églises évangéliques. Alors, il y a d'abord la conversion, il y a ensuite le biblicisme, c'est-à-dire la Bible au centre du message de la foi, mais aussi norme pour notre vie chrétienne et pour notre vie d'église. Ensuite, le crucicentrisme. Alors, c'est un nom un petit peu compliqué, mais on parle parfois, il y a un nom qui existe qui s'appelle l'égocentrisme. Alors, l'égocentrisme, c'est quand on se centre sur soi, sur moi. Hein, c'est le moi qui est le centre de notre vie, notre moi. Et le crucicentrisme, c'est la croix qui est au centre, la croix de Jésus-Christ, qui est au centre du salut, au centre de la vie chrétienne. Et le dernier point, c'est l'engagement, c'est-à-dire le témoignage de chaque chrétien, l'évangélisation, l'appel à se tourner vers Dieu. Alors ce matin, le troisième volet de ces quatre points, le crucicentrisme. Tout d'abord, donc la croix, tout d'abord un étonnement. Vous portez, mes sœurs et mes frères, mais davantage les sœurs, autour du cou ou parfois aussi en boucle d'oreille, une croix. Mais vous viendrait-il à l'esprit de porter comme pendentif une guillotine ou une chaise électrique? Car la croix est bien un moyen, un instrument de supplice atroce, horrible. Il en existe sans doute des plus raffinés, mais la croix en fait certainement partie. Et pourtant, la croix s'est imposée au cours des siècles, et puis peut-être à la fin du premier siècle, c'était quelque chose qui était reconnu comme le symbole suprême du christianisme. Il y en avait d'autres. On met parfois à l'arrière de sa voiture un poisson, ictus. C'est un des symboles que les chrétiens se reconnaissaient entre eux pendant la période de persécution à la fin du premier siècle pour savoir que celui qu'on avait en face de soi était aussi chrétien. Il y en aurait sans doute d'autres, mais c'est la croix qui s'est imposée comme le symbole du christianisme. J'aimerais que nous lisions quelques versets dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 22, où pour l'apôtre Paul, le résumé de l'évangile, c'est la prédication de la croix. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, c'est-à-dire que non-Juifs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La croix. Puissance de Dieu, sagesse de Dieu, folie pour les uns, scandale pour les autres. Un théologien anglais qui a su vulgariser la théologie qui est décédé il y a peu de temps, à l'âge de 90 ans, je crois, John Stott, écrit ceci. Le fait que la croix soit devenue le symbole chrétien par excellence et que les chrétiens aient refusé obstinément, malgré les moqueries, de le remplacer par quelque chose de moins provoquant, n'a qu'une explication. C'est dans l'esprit de Jésus lui-même que la croix a trouvé sa place centrale. C'est par fidélité que ses disciples se sont attachés si fortement à ce signe. Et effectivement, la croix est le message central des quatre évangiles. Tous les quatre évangiles convergent vers la croix, la mort, la croix de Jésus, sa résurrection aussi, mais essentiellement la croix. Et entre un quart et un tiers des trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et la moitié du quatrième de l'évangile de Jean se concentre sur la mort de Jésus. C'est dire l'importance qui est accordée dans les évangiles à la mort de Jésus et à sa mort sur la croix. Jésus est venu pour cela, dans le but de mourir pour nous. Et il savait qu'il devait mourir, puisque tel était le sort qui était réservé au Messie, annoncé dans les Écritures. Il suffit de lire ce grand chapitre 53 du livre d'Ésaïe pour s'en rendre compte. Et à maintes reprises, Jésus a préparé ses disciples à sa mort comme un événement inéluctable. Notre mort est inéluctable. Nous savons bien que nous allons tous mourir un jour et nous ne savons pas quand, même si nous espérons le plus tard possible. Mais Jésus savait qu'il était venu pour mourir. C'est ce pourquoi il est venu sur la terre. Apocalypse, chapitre 7. Je vous invite à tourner les pages de votre Bible, versets 13 à 14. Encore un texte qu'on pourrait verser au document scandale, scandale de l'Évangile. Chapitre 7, versets 13 et 14. C'est une vision du peuple de Dieu dans l'au-delà. Cette grande foule qu'on ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Ça, c'est le verset 9 qui nous le dit. Et pour faire court, nous lisons juste les versets 13 et 14. L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Et voilà maintenant le scandale. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Mieux que homo ou je ne sais trop quelle lessive dont on vante les mérites de la blancheur. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. L'agneau, c'est bien sûr Jésus. L'agneau immolé, immolé pour nous, blanchi dans le sang de l'agneau. C'est matériellement impossible, mais c'est un symbole, le symbole de la purification que Jésus nous a apporté par son sang qui nous lave de tout péché. Un célèbre apologiste. Alors on appelle apologistes ceux qui défendent la foi par des arguments intellectuels, parfois ou souvent philosophiques. Et au IIe siècle, il y en avait un qui était célèbre, qui s'appelait Justin, et que les historiens ont fini par appeler Justin martyr, parce qu'il est mort martyr. Et il affirmait que quoi qu'il regardât, il voyait la croix partout. Par exemple, un homme qui tend les bras, forme de croix. Les formes géométriques de nos bâtiments, on voit des croix partout. Et pour vous en convaincre, j'aimerais que Pierre-Yves projette maintenant un bâtiment que vous connaissez tous, je pense, et que vous allez maintenant me dire de quoi il s'agit. Le palais de l'Élysée. Eh bien, ce n'est pas la peine de faire un trop grand effort pour remarquer que le symbole ostentatoire du christianisme est bien visible au cœur de la vie politique française. Notez le nombre de croix qui se détachent de chaque fenêtre, en haut ou en bas. C'est impressionnant. Et j'ai pris un deuxième bâtiment public, le ministère de l'Agriculture, un petit ministère, rue de Varennes, à Paris, à deux pas de Matignon. Idem, pareil, les croix se détachent comme par miracle de chaque fenêtre. Eh bien oui, partout où on regarde, on voit des croix. Et il n'est peut-être pas étonnant ou surprenant que l'art musulman enlève toutes ces croix. Et sur les bâtiments, sur les palais, je dirais pas arabes, je dirais musulmans, il n'y a pas ces croix. Mais ici, vous pouvez voir des croix à chaque pavé de verre que vous voyez, vous pouvez voir une croix sur la porte, enfin, oui, les croix sont partout autour de nous. Alors, pourquoi Christ est-il mort sur la croix ? Qui porte la responsabilité de sa mort sur la croix? Une petite remarque encore, les évangiles sont d'une extrême sobriété pour décrire la scène de la crucifixion. Un cinéaste contemporain, je crois que c'est Mel Gibson, a fait un film il y a quelques années qui s'appelle, je crois, La Passion du Christ, où il a vraiment mis le centre de sa caméra, il a focalisé sa caméra sur les souffrances atroces d'un crucifié, notamment de Jésus crucifié. Et c'est vrai, je crois que la Bible ne minimise pas la souffrance. Et, je le répète, la croix est un supplice horrible, c'est une torture épouvantable. Mais cependant, les évangiles sont d'une extrême sobriété. Aucune mention de marteau, aucune mention de clou, aucune allusion à la douleur ou au saignement des blessures. Tout est dit en un mot, en quelques mots, ils le crucifièrent. Et pourtant, quelle agonie que celle des crucifiés. Oui, la Bible ne s'étale pas sur la souffrance de Jésus, mais je le répète, elle n'est pas minimisée. Et regardons maintenant dans le livre des Actes, au chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, pour répondre à cette question, qui porte la responsabilité et la culpabilité de la mort de Jésus? Actes chapitre 4, juste un verset, le verset 27. C'est l'apôtre Pierre. Non, ce n'est pas l'apôtre Pierre. C'est suite à la discussion de l'apôtre Pierre avec le Sanhédrin, c'est-à-dire ce haut conseil religieux et politique, politico-religieux de Jérusalem, donc qui avait droit de décision en matière civile et religieuse, que Pierre ayant été libéré, les chrétiens à Jérusalem se réunissent pour prier. Et c'est dans leur prière qu'ils disent ceci, verset 27, acte 4, « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, c'est-à-dire que tu as établi comme Christ, hein, Hérode, et Ponce Pilate, alors c'était respectivement des gouverneurs romains, aujourd'hui on dirait des préfets, hein, ils représentaient le gouvernement romain, hein, Hérode pour la Galilée, Ponce Pilate pour la Judée, la région de Jérusalem. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le ou les peuples d'Israël. Mais ce n'est pas fini. Verset 28, « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » La responsabilité incombe donc à trois groupes de personnes. Les Romains, représentés notamment par Hérode et Ponce Pilate. Les nations, c'est-à-dire les païens, dont nous faisons partie, nous ne sommes pas en Israël. Et puis le ou les peuples d'Israël. Alors certaines versions, certains manuscrits portent les peuples d'Israël. Je pense qu'il s'agit ici des différents partis en Israël, comme les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, voilà, qui se sont ligués, hein, qui se sont vraiment mis ensemble pour demander, exiger la crucifixion de Jésus. Mais en citant les Romains, les nations et Israël, c'est le monde entier qui est coupable de la mort de Jésus. Et même si nous, ici présents, nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est nous qui avons crucifié Jésus, car ce sont nos péchés qu'il a portés. Et Ésaïe 53 nous dit ceci, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute, dit-il, de nous tous. » Alors il s'adresse, c'est vrai, à son peuple d'Israël, mais au-delà de ce peuple d'Israël, le livre d'Ésaïe est devenu universel. Luc chapitre 9, verset 22 nous dit qu'il fallait que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens du peuple, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, les autorités religieuses, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et Jésus, aux disciples d'Emmaüs, leur dit, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Il fallait. Tout cela était déterminé d'avance. C'est ce que Dieu avait décidé, c'est ce que Dieu avait choisi. C'est-à-dire que Jésus, son Fils, meurt à notre place parce que c'est nous qui méritions le châtiment, la colère de Dieu, la séparation d'avec Dieu éternellement. Et puis Jésus le sait très bien. Dans Jean chapitre 10, il dit « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même, librement. » Qui donc a livré Jésus à la mort? Judas pour de l'argent? Pilate pour raison d'État? Les Juifs qui voulaient se débarrasser d'un gêneur? Non. Le Père et Jésus qui, par amour pour nous, pour régler la question du péché, de nos fautes, a donné Jésus qui s'est livré lui-même pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Et la croix nous montre l'amour de Dieu de façon inimaginable. Romains chapitre 5 verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la croix nous montre l'amour de Dieu si fort, mais aussi la gravité de notre péché, de notre culpabilité devant Dieu. Nous avons tous violé la loi de Dieu. Et Dieu est saint. Et nous sommes tous pécheurs. Et je suis sûr que si nous regardons au fond de notre conscience, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre conscience, nous avons des choses à nous reprocher. Alors, Dieu qui est saint, n'aurait-il pas des choses à nous reprocher? Sommes-nous purs aux yeux de Dieu? Bien sûr que non. La croix met le doigt, met l'accent sur la gravité de notre péché. Et tout péché est une violation de ce que Jésus appelle le premier et le plus grand commandement, aimer Dieu. Et le second, qui dit-il, lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Qui peut dire qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et qui aime son prochain comme soi-même? Alors l'apôtre Paul nous dit, chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché, et ce tous nous contient. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence glorieuse de Dieu. Tous, nous ne pouvons pas tenir la tête haute devant Dieu. Tous, nous sommes coupables d'avoir désobéi à Dieu. Et c'est par la croix que Dieu règle la question importante de notre péché. Car Paul ne s'arrête pas là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés par le moyen de la foi en Christ, en Jésus-Christ, par sa crucifixion. Alors nous ne pouvons pas faire autrement que de passer par la croix de Jésus-Christ pour être sauvés, pour être lavés de nos péchés. Souvenez-vous, cette robe blanche qui symbolise la pureté devant Dieu. Il faut que cette robe blanche, pour qu'elle devienne blanche, soit lavée dans le sang de l'agneau. Un vieux cantique qui m'est revenu en mémoire disait ceci: alors qu'ici-bas tu passes, laisse-moi te demander, es-tu, mon ami, passé par la croix? De Jésus as-tu la grâce? Le laisses-tu te guider? Oui, la croix est un passage obligé. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Acte 4, verset 12, c'est l'apôtre Pierre qui dit au Sanhédrin: le salut ne se trouve en aucun autre. Le salut, c'est un don. Et un don, par définition, c'est gratuit. Mais Jésus en a payé le prix pour nous. S'il nous l'offre, c'est qu'il a payé le prix. Quand vous recevez un cadeau, si c'est quelque chose qui a été acheté, supposez que celui qui vous l'offre l'a acheté en bonne et due forme, qu'il ne l'a pas volé. Oui, Dieu nous offre le salut. Mais le prix qu'il a payé, c'est la mort de Jésus sur la croix. Il y a dans la mort de Jésus sur la croix un aspect de représentation et de substitution. Alors un représentant agit au nom de quelqu'un d'autre ou d'un groupe, de telle manière que le groupe est impliqué dans l'action. Lorsque, par exemple, Pierre-Yves, notre pasteur, nous représente dans une autre assemblée, disons une assemblée chrétienne, c'est toute notre Église qu'il représente. Ce qu'il dira, ce qu'il fera, nous impliquera. Il n'agit pas en son nom personnel, il nous représente. Alors qu'un substitut n'agit pas au nom de quelqu'un, mais à la place d'une autre personne, de telle manière que cette autre personne est dispensée d'intervenir. le substitut du procureur, hein, puisque c'est une expression qu'on utilise dans ce sens-là, agit en son nom, pas au nom du procureur, en son nom. Alors il agit au nom de la justice, bien sûr, de notre pays, mais il agit en son nom. Et puisque nous sommes aujourd'hui le dimanche des conscrits, il y avait autrefois dans l'armée un principe de substitution. Le substitut prenait la place d'un conscrit. Vous savez, les conscrits étaient, je ne sais pas si à l'époque ils étaient tirés au sort, mais on pouvait racheter la conscription. Et c'est ce que faisaient ceux qui avaient de l'argent. Vous étiez obligé d'aller à l'armée, mais c'était assez embarrassant parce que c'était dangereux, vous pouviez vous faire tuer. Alors vous pouviez vous faire remplacer par quelqu'un qui n'était pas conscrit en payant pour qu'il prenne votre place. C'est le principe de substitution. Mais en tant que représentant, Jésus nous implique dans sa mort. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes morts avec lui. Nous sommes aussi ressuscités avec lui. En mourant, Jésus l'a fait à notre place, il l'a fait en notre nom, il l'a fait pour nous. Et nous sommes comme inclus dans sa mort sur la croix. Mais en tant que substitut, bien sûr, il n'y a que lui qu'il pouvait le faire. Et c'est lui qui l'a fait à notre place, il a pris notre place comme celui qui prend la place du conscrit, il va à la guerre à sa place. Et c'est le baptême qui rend visible notre participation à la mort et à la résurrection de Jésus. Et alors nous dit l'apôtre Paul, Romains chapitre 6, comment pourrions-nous donc continuer à vivre dans le péché? Alors il ne s'agit pas d'une impossibilité. En étant chrétien, on peut pécher et on pêche, c'est une évidence. Mais il s'agit d'une attitude incompatible avec notre vie en Christ. Jésus nous invite à une vie de sanctification, une vie qui lui ressemble. Et nous pouvons recevoir aussi le pardon de nos péchés, mais il nous demande aussi de nous améliorer par la puissance de son esprit. Et j'aimerais terminer par un verset que j'aime beaucoup. Et vous pouvez prendre ce verset comme un mot d'ordre, et peut-être, pourquoi pas, un départ ou un nouveau départ dans la vie chrétienne avec Dieu. Marc, chapitre 8, verset 34. Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il se charge de sa croix. Alors pour beaucoup de gens qui nous entourent, porter sa croix, c'est souffrir de maladies, de différentes épreuves. Une croix, certains, nous disons, ont une croix lourde à porter. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus utilise cette expression « se charger de sa croix », non pas de sa croix personnelle, mais de la croix de Jésus. Se charger de la croix de Jésus, ce n'est pas porter la croix de ses souffrances ou des épreuves que nous subissons. C'est suivre le Seigneur sur le chemin qu'il a lui-même suivi, qu'il a tracé aussi pour nous, quand bien même ce chemin conduirait à la persécution. C'est faire de Jésus son maître, quoi qu'il en coûte, et de le suivre jusqu'au bout. Sommes-nous prêts à porter la croix de Jésus, à le suivre, c'est-à-dire à nous mettre à son école, à son service, à nous imprégner de sa parole pour que nous puissions la mettre en pratique ? pour que nous puissions la vivre. Le crucicentrisme est l'opposé de l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est faire ce qu'on a envie, ce qu'on pense, sans aucune autre référence. C'est parfois aussi peut-être un coup de colère qui n'est pas contrôlé. Mais le crucicentrisme, c'est de faire comme Jésus veut que nous fassions. C'est suivre sa vie, son exemple, son enseignement. Et là, je termine vraiment avec l'expérience d'un homme. C'était un comte en Bohême, autrefois, dans cette région de l'Europe centrale. Il s'appelait le comte de Zinzendorf. Il a vécu de 1700 à 1760, une soixantaine d'années. Autrefois, on vivait un peu moins longtemps qu'aujourd'hui. Et un jour, je crois qu'il avait 19 ans, il a vu un tableau. Un tableau d'un peintre italien qui s'appelle Domenico Fetti. Et lui, il a vécu seulement, je vous dirai pas combien, vous ferez le calcul vous-même parce que je risque de me tromper. Il est né en 1589 et il est mort en 1624. 35 ans. C'est pas beaucoup, un peu comme Jésus d'ailleurs. Et il a peint un tableau du Christ, un Christ souffrant avec une couronne d'épines sur la tête. Et en bas de ce tableau, il a écrit cela. Tout cela, je l'ai fait pour toi, et toi, que fais-tu pour moi? Et c'est cette phrase avec ce tableau aussi, ou ces deux phrases, qui ont profondément touché le comte de Zinzendorf. Il avait 19 ans, il s'est converti grâce à ce tableau et il a servi le Seigneur. Il est à l'origine d'un mouvement piétiste qu'on appelle les frères moraves. Et ce sont ces frères moraves qui, un jour, sur un bateau, ils sont partis aussi aux États-Unis, c'était l'époque des pionniers, et ils ont influencé un homme qui est devenu un grand homme de Dieu, qui est devenu à l'origine du méthodisme. Oui, voilà, Wesley, hein, John Wesley, qui c'est un pasteur anglican, il s'est converti et il est devenu un évangéliste remarquable qui a amené, ou par la grâce de Dieu que le Seigneur a permis qu'il amène, des milliers de personnes à la foi. Il est à l'origine donc des églises méthodistes. Tout cela parce que le comte de Zinzendorf a été frappé par cette phrase « Tout cela, je l'ai fait pour toi ». Et toi, que fais-tu pour moi? Eh bien, c'est la question que je vous pose. Tout cela, le Seigneur, en mourant sur la croix, l'a fait pour nous. Et nous, que faisons-nous pour lui? Prions Dieu. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi tu as accepté librement de mourir sur la croix. Pour nous qui ne méritons que le salaire de notre péché. Mais tu l'as fait, nous le savons, par amour pour nous, parce que tu voulais que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie, et que nous ayons aussi dans cette existence terrestre un but, celui de te connaître, de te suivre, de t'aimer, de marcher avec toi. Aide chacun d'entre nous à faire de cette croix le passage obligé pour recevoir le pardon de nos péchés, pour recevoir la vie avec toi. Bénis encore ta parole dans nos cœurs. Amen.